professeur Brocchi, Philippe Brocchi, qui lui va nous parler des pathologies infectieuses émergentes. Il est chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Nord-Marseille. C'est
un... Très bien. Bonjour à tous. Donc, merci aux organisateurs de ce congrès de m'avoir convié à venir parler donc, de ces pathologies infectieuses émergentes, notamment à Rémi Seba, avec qui je corresponds depuis de nombreuses années et on échange beaucoup d'idées sur les patients. Alors, les pathologies infectieuses émergentes, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Les pathologies infectieuses émergentes, ça fait très très longtemps qu'on en parle. L'émergence, ça fait plusieurs dizaines d'années que l'on parle de ces pathologies infectieuses émergentes. Et donc, peut-être qu'on va jeter un regard un petit peu différent. Alors, l'émergence, juste pour rappeler, il y a une définition simple du Larousse. Hein, l'émergence, eh bien, c'est ce qui nous apparaît. La réémergence, c'est ce qui nous réapparaît, tout simplement. Et quand on revoit un bel iceberg, on s'aperçoit que finalement, l'émergence est une petite partie et que finalement, il y a beaucoup d'inconnus. Puisque c'est l'heure des citations, j'ai vu beaucoup de gens faire des citations aujourd'hui. Simplement, rappelez-vous celle de Charles-Nicolle. Les maladies infectieuses, il en naîtra de nouvelles, il en disparaîtra lentement quelques-unes. Celles qui subsisteront ne surmonteront plus sous les formes que nous leur connaissons aujourd'hui. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il a toujours raison. Alors, quels sont les facteurs de l'émergence? En pratique, il faut essayer de considérer que l'émergence est liée à un déséquilibre, est liée à un déséquilibre entre un agent pathogène, donc une bactérie, un virus, un agent non conventionnel, autre, l'homme ou son hôte, et l'environnement. Donc, on voit qu'il y a trois grands ensembles, et dès qu'il y a un déséquilibre avec un de ces ensembles, eh bien, ça crée des conditions de l'émergence. Il faut savoir que l'émergence n'a pas réellement de limite géographique. L'émergence peut arriver à peu près n'importe où. Alors, je vais vous donner quelques exemples que l'on détaillera après de facteurs, de conditions qui peuvent favoriser l'émergence en maladie infectieuse. Donc, bien entendu, on peut parler des modifications climatiques. Elles sont relativement à la mode en ce moment. Et c'est vrai que le changement climatique entraîne, par exemple, des modifications dans la répartition d'un certain nombre d'animaux. Par exemple, les animaux entraînant une répartition dans la modification géographique par exemple, des vecteurs, comme les tiques, et bien entendu une modification de la répartition des maladies transmises par ces vecteurs. Donc, les modifications climatiques ont un impact, effectivement, sur certaines maladies infectieuses. Les déplacements humains, on en parlera rapidement, mais bien les maladies infectieuses n'étaient pas les mêmes quand il n'y avait pas de moyens de transport, après le bateau et maintenant avec l'avion. Donc on verra que les maladies infectieuses se déplacent beaucoup plus rapidement, et donc on prendra quelques exemples. Les nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques, une des raisons majeures de l'émergence aussi, c'est notre capacité de plus en plus importante à diagnostiquer les maladies. Donc plus on en diagnostique, et effectivement, plus elles nous apparaissent. Et donc, la mise au point de cette capacité diagnostique est un des facteurs d'émergence. Le relâchement des mesures sanitaires, je ne vais pas vous rappeler que la vaccination est un problème extrêmement important et que chaque fois qu'il y a un relâchement dans la vaccination, eh bien, on ne voit pas apparaître cette fois-ci, mais on voit réapparaître des maladies infectieuses qui étaient très, très bien contrôlées. Je vous donnerai là aussi quelques exemples. Les virus nouveaux. Eh bien, ça fait partie effectivement de l'environnement biologique, puisque les virus, comme tous les agents infectieux, mutent et ont un certain nombre de mutations. Eh bien, la sélection de ces mutations va donner lieu à un certain nombre de maladies émergentes. On parlera du SARS comme exemple. Les guerres, les catastrophes qui favorisent effectivement des conditions socio-économiques très particulières vont donner lieu à l'émergence d'un certain nombre de maladies. Les maladies à péril fécal, par exemple, comme le choléra, on reparlera un petit peu d'Haïti, ou quelques exemples de typhus qui sont transmis par les poules. L'alimentation, on verra que l'alimentation est un grand facteur d'émergence. Avant les frigidaires, qui nous gardent nos aliments à 4 degrés, il n'y avait pas de listériose, tout simplement parce que l'hystéria, ça pousse à 4 degrés, on y reviendra. Enfin, je voudrais insister sur quelque chose de relativement important, c'est les modifications de nos pratiques de soins, c'est-à-dire nos prises en charge du malade. Et ça, je crois que c'est sur ce point-là que je voudrais insister particulièrement aujourd'hui, c'est que c'est l'environnement et le nouvel environnement des soins que l'on prodigue qui sont finalement le facteur de la plus grosse des émergences en termes de morbidité et de mortalité, et je vais vous en parler. Alors, quelques exemples, les maladies infectieuses et l'environnement, la ville, le surpeuplement, la paupérisation, le péril fécal, on va reparler tout à l'heure du choléra, notamment en Haïti, la promiscuité, la tuberculose, et on va en reparler, la tuberculose qui revient en force actuellement dans les pays industrialisés, l'hygiène avec le typhus murin, la peste dans certaines situations, et puis le quart monde. Et ça, c'est quelque chose de relativement important. Les pays industrialisés vivent actuellement ce qu'on appelle le quart monde, c'est-à-dire l'introduction des gens pauvres dans ces pays riches. Et bien entendu, ces gens pauvres dans ces pays riches sont une population tout à fait particulière et exposée à des maladies nouvelles. Le choléra en Haïti, juste pour vous dire que le choléra, c'est une maladie endémique et qui donne des poussées épidémiques sur l'ensemble du monde, et que les conditions effectivement d'émergence sont parfois très particulières. Ce sont multiples. Qu'est-ce qui s'est passé en Haïti? Il s'est passé qu'il y a une guerre, il s'est passé qu'il y avait effectivement des désastres, désastres écologiques. Et tout ça, ce n'était pas suffisant. Il a fallu l'introduction d'un agent pathogène dans des conditions particulières pour donner lieu à la plus grosse épidémie récente de choléra. Et on voit que les chiffres là sont assez considérables, puisqu'on voit qu'il y a 620 000 cas dénombrés à aujourd'hui, avec 7 800 décès. Donc on ne parle pas effectivement d'émergence mineure, comme je reviendrai sur le sujet. Le typhus épidémique. Il faut se souvenir que ce typhus épidémique, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup, c'est une infection à Rickettsia prowazekii, sauf que ce typhus épidémique est transmis par les poux et qu'il a donné lieu à de grosses épidémies, dont certaines remontent à pas si longtemps que ça, puisque au Burundi, on a eu pendant la guerre du Rwanda et du Burundi plus de 100 000 cas avec un nombre de morts de 30 000 décès qui a été estimé. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de maladies qui, d'un seul coup, parce que les conditions environnementales se modifient brutalement, apparaissent ou réapparaissent et donnent lieu à des problèmes de santé publique qui sont des problèmes majeurs de santé publique. Les transports, simplement le bateau, c'est le bateau qui nous a introduit la peste. Avant qu'on ait des bateaux, on n'avait pas la peste. Je ne vous rappellerai pas la grande histoire de la peste à Marseille. Certaines rickettsies ont été transmises dans les Antilles en partant au départ d'Afrique. Les légionelloses, les grippes, les grandes épidémies de légionellose, les grandes épidémies de grippe se passent sur les grands bateaux, effectivement, qui vous emmènent faire de belles croisières. L'avion, il n'y avait pas de paludisme à Plasmodium falciparum ici en France avant, effectivement, l'avion, ni de dingue, ni de West Nile. Le SARS est un exemple, effectivement, de la modernité de l'avion qui a modifié, effectivement, nos conditions de vie et donc qui nous a permis d'importer un certain nombre de ces maladies, comme les maladies hémorragiques, les fièvres hémorragiques virales, comme notamment les maladies de Lassa. Le SARS est peut-être un des modèles épidémiques d'émergence les plus récents et sur lequel on peut tirer peut-être le plus de leçons. Ce SARS, finalement, est comme modèle la sélection d'une mutation d'un virus qui, a priori, est un virus dont on pense maintenant qu'il était dans les chauves-souris, qui est passé dans les civettes, et dans les civettes, il a été à nouveau sélectionné. Il est passé à l'homme, et chez l'homme, il a été à nouveau sélectionné pour pouvoir se transmettre en interhumain et a donné lieu, comme vous le savez, à une grande épidémie. Cette grande épidémie qui a causé plus de 8000 cas et à peu près 774 décès, il faut savoir que dans l'émergence de ce style, les personnes les plus exposées sont les soignants. C'est-à-dire c'est vous, parce que bien entendu, c'est dans vos mains que vont tomber ces malades. Ce qu'il faut quand même tirer de l'histoire du SARS, c'est que nos capacités à diagnostiquer, nos capacités à suivre ont considérablement été améliorées ces dernières années. Et le SARS, en dehors de son traitement, a été complètement connu, finalement, en quelques mois, puisqu'il a commencé vraisemblablement en novembre 2002, et en mars 2003, la quasi-totalité de l'histoire du SARS, en dehors du traitement, a été connue, et la maladie a été maîtrisée. Donc, ce qui veut dire que les épidémies sont imprévisibles, mais le contrôle de ces épidémies est aussi lui-même imprévisible. Les maladies infectieuses et l'alimentation. L'alimentation a un rôle important dans l'émergence d'un certain nombre de maladies infectieuses. Bien entendu, la religion et les coutumes de l'hygiène sont très très importantes à ce niveau-là. Bon, le prion, vous le connaissez, les trichinoses, l'hydatidose, la listériose, on en a parlé tout à l'heure avec l'apparition des réfrigérateurs. Les risques qui sont identifiés maintenant, sans qu'ils soient complètement démontrés, ce sont des risques potentiels, sont les risques effectivement de la consommation du poisson cru. Vous savez que c'est la mode sushi actuellement, tout le monde mange des sushis une ou deux fois par semaine parce que ça ne fait pas trop grossir et c'est bon. Et donc ces sushis sont faits avec des poissons frais. Et il y a effectivement un certain nombre de poissons qui transmettent des helminthes, mais il n'y a pas à l'heure actuelle d'épidémie qui ait été notée avec la consommation des sushis. Donc c'est bien un risque, mais c'est un risque potentiel. Je vous passerai sur les risques de l'émergence des maladies infectieuses par rapport aux pratiques sexuelles, parce que c'est des choses qui sont assez anciennes. Par contre, je reviendrai volontiers sur les maladies infectieuses et les vecteurs. On en a parlé tout à l'heure de ces fameux vecteurs. Dans les vecteurs, il y a les poux, les puces, les tiques, les moustiques. Tous ces vecteurs, effectivement, se déplacent en raison, effectivement, des modifications de comportement de l'homme ou des modifications de comportement climatique et peuvent donner lieu à des maladies émergentes. Parmi elles, une qu'il faut surveiller tout particulièrement, c'est l'émergence d'un nouveau plasmodium qui s'appelle Plasmodium knowlesi autour des Philippines, ça va me revenir, et qui donne lieu à un paludisme de sévérité identique à celle de Plasmodium falciparum. Et puis, bien entendu, dans ces vecteurs, on ne peut pas ne pas parler des vecteurs qui transmettent le West Nile, la dengue et le chikungunya, puisque vous savez qu'il y a une surveillance relativement importante sur les côtes méditerranéennes, particulièrement dans la région PACA. Mais il y a des choses qui sont encore relativement importantes. Vous savez que on a eu quelques petites épidémies, il y a eu quelques cas de dengue et de chikungunya qui ont été diagnostiqués localement, il y a eu une petite épidémie qui s'est passée dans le nord de l'Italie, mais c'est vraiment l'évolution de ces épidémies et de l'émergence de ces maladies est imprévisible, puisque regardez ce qui s'est passé aux États-Unis pour le West Nile, en quelques années, le West Nile a complètement envahi les États-Unis, de l'Est en Ouest, de façon extrêmement rapide. Et pourquoi rien ne se passe ici dans notre région, on ne sait pas. Malgré la surveillance, on sait qu'il n'y a pas effectivement d'émergence actuelle de ces nouvelles maladies. Et on ne sait pas pourquoi aux États-Unis, d'un seul coup, ça a couvert la totalité du globe. Donc voilà, ceci étant dit, ici dans notre région, il y a une progression effectivement du vecteur. On voit que ce vecteur progresse puisqu'il était d'abord installé plutôt du côté de Nice. Vous voyez qu'il progresse relativement bien, mais actuellement, la surveillance ne montre pas d'émergence particulière. Les vaccinations et les maladies qu'on peut prévenir par la vaccination, dans l'émergence, c'est un rôle absolument primordial. On ne vous rappellerait pas l'épidémie de rougeole que nous avons vécue il y a quelque temps, à l'introduction de cette rougeole dans les hôpitaux. Bien entendu, encore une fois, quand il y a une émergence de maladies infectieuses, les premiers à en payer le tribut, ce sont les soignants directement. Et simplement pour dire que le contrôle de ces maladies infectieuses et la réémergence est un phénomène extrêmement difficile. Juste quelques cartes pour vous montrer où on en est de la poliomyélite. Je vous rappelle que l'OMS avait prédit l'éradication de cette deuxième maladie infectieuse, puisque après la variole, le problème était d'essayer d'éradiquer la poliomyélite, et qu'il avait programmé ça en 2005. Voici les cartes où on voyait encore des cas de poliomyélite en 1999 et 2000. Les cartes entre 2001 et 2005, pour des raisons qui sont effectivement des raisons un peu complexes, dans le haut du Nigeria, il a été impossible de vacciner correctement pour la poliomyélite, et vraisemblablement, à partir de là, on a eu à nouveau, à partir de 2006, une nouvelle explosion de la poliomyélite qui s'est répandue à partir du Nigeria sur l'ensemble des territoires essentiellement musulmans, d'ailleurs, sur le globe. Et actuellement, au 26 novembre 2013, la poliomyélite n'est toujours pas éradiquée et probablement pas éradiquée d'ici là. Enfin, tout ça pour dire que ces maladies, elles émergent donc par les pressions, effectivement, et les modifications de nos environnements, mais que malheureusement, dans cet environnement, il y a aussi l'homme et qu'elles peuvent émerger ou réémerger simplement à cause de l'homme, simplement pour parler du bioterrorisme. Et il faut faire très attention à possibilité d'émergence vis-à-vis d'émergence. La variole sur laquelle on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pendant des années pour essayer de voir comment on pouvait prévenir ce bioterrorisme à la variole, finalement, on est en train de s'apercevoir que c'est probablement pas la cause majeure d'émergence à venir. Les laboratoires de recherche, par contre, eux, sont effectivement des lieux d'émergence. Il y a eu pas mal d'accidents de laboratoire liés à la contamination de travailleurs. Alors, je voudrais revenir quand même sur quelque chose d'important. Dans l'émergence, on a parlé de l'émergence liée à nos pratiques de soins, et je crois qu'il ne faut pas trop marcher sur la tête. Les infections liées aux soins, c'est un problème qui a émergé depuis longtemps, qui continue à émerger et qui est extrêmement préoccupant en termes de santé publique. Nos modifications dans nos pratiques, c'est plus de dispositifs invasifs. On perfuse, on met de nouvelles prothèses, on met énormément de dispositifs invasifs. Plus de tests disponibles, donc on fait plus de prélèvements. Une médecine qui est plus agressive, avec beaucoup d'effets iatrogéniques. Un allongement de la durée d'hospitalisation, qui, on le sait, est rattaché directement aux infections nosocomiales. L'immunosuppression thérapeutique pour nos malades qui ont des cancers, des lymphomes, etc., les surcharges de travail, le rapprochement, effectivement, la déviation du travail qui devient de plus en plus administratif et moins soignant, les prescriptions inadaptées d'antibiotiques, on vient d'en parler avec Pierre Della Monica, tout ça, ce sont des modifications de nos pratiques qui sont à l'origine de l'émergence et des problèmes des infections liées aux soins. Actuellement, dans les dernières enquêtes, l'enquête nationale de prévalence 2012, on a vu que la prévalence des infections liées aux soins est de 5%, donc 5,1% de cette enquête à un jour donné, ce qui veut dire que quand on regarde dans nos hôpitaux un jour donné, on a 15 000 patients qui ont une infection nosocomiale. Et sur 13 millions d'admissions annuelles, si on regarde ça, les hôpitaux français actuellement ont environ 13 millions d'admissions annuelles. Ça fait 650 000 infections liées aux soins par an dans nos hôpitaux. Là, on n'est plus sur la même dimension et je crois que c'est surtout là-dessus que je voulais vous alerter. Je me demande si on ne marche pas un peu sur la tête et si on n'est pas en train de regarder le glaçon à l'envers. Alors, c'est vrai qu'il y a des maladies émergentes. Il y a des maladies émergentes, il y a H5N1, la grippe aviaire dont on parle depuis très longtemps, H7N7 dont on est en train de parler actuellement, le MERS-CoV qui nous a bien effrayés pendant ces derniers temps, mais à côté de ça, nous, qu'est-ce qu'on voit? Quel est notre problème? Quel est le problème de santé publique? Le problème de santé publique, c'est les bactériémies liées aux soins. C'est, on vient de le dire, la résistance aux antibiotiques. C'est les tuberculoses multirésistantes qui sont en train d'arriver. C'est les infections à Clostridium difficile et 30% de mortalité. 30% de mortalité dans les infections à Clostridium difficile. C'est l'hépatite B. 1300 morts par an d'hépatite B. C'est pas des infections qui émergent, elles ont émergé depuis longtemps. Mais il serait peut-être temps de s'en occuper réellement parce que ça, ce sont des infections avec une forte mortalité et une forte morbidité. Voilà quelques exemples. Le MERS-CoV, c'est vrai, c'est très intéressant, il faut le surveiller. Mais globalement, nous, en France, un cas acquis, un cas nosocomial. Ça, déjà, on est vraiment champion pour ça. En dehors de ça, le MERS-CoV, c'est 155 cas confirmés, 64 décès dans le monde. Quand on parle ici effectivement d'H5N9, la nouvelle grippe actuellement qui émerge, c'est pareil, 139 cas, 45 décès. Alors, c'est sûr que c'est regrettable au titre individuel, mais on ne peut pas comparer ces problèmes en termes de santé publique. Les bactériémies nosocomiales, l'estimation actuelle, c'est 100 000 cas par an en France. C'est une estimation en termes de décès, 15 000 décès par an en France, de bactériémies nosocomiales. Une augmentation de 23% entre 2001 et 2006. Une augmentation de la durée de séjour et des coûts. Et donc, l'enquête nationale de prévalence, en 2012, dans un jour donné, sur 300 000 patients qui ont été vus, 86 000 avaient un cathéter. 24 000 une sonde urinaire. Là, on ne parle pas des mêmes choses. D'accord ? On ne parle pas des mêmes malades. On ne parle pas des mêmes problèmes. L'hépatite B en France, c'est quoi ? C'est d'abord plus beaucoup de chiffres depuis de nombreuses années. Donc les chiffres qui sont disponibles actuellement, c'est des chiffres quand même qui sont relativement anciens. 300 000 porteurs chroniques du virus dont la moitié l'ignore. 1000 à 2000 nouveaux porteurs chroniques chaque année. 1330 décès par an pour une maladie que l'on sait prévenir par la vaccination. Une couverture vaccinale 3 doses en amélioration, certes, puisqu'on passe à 74% à 24 mois, mais qui est à environ 40% pour les adultes. Donc là aussi, on a un problème. L'émergence, c'est une chose, mais on a des vrais problèmes de santé publique. Parmi ceux-ci, la tuberculose résistante. La tuberculose résistante est arrivée récemment sur notre territoire. Elle est arrivée en force récemment, mais elle existe depuis quelques temps. Cette tuberculose résistante, elle est liée à deux choses, deux phénomènes. D'une part, des traitements inadaptés, certainement, mais aussi à l'émergence d'un clone très particulier de Mycobacterium tuberculosis qui s'appelle le clone Pékin, Beijing, qui est venu, comme son nom l'indique, de Chine et d'Asie et qui actuellement est réparti sur la totalité de la surface du globe. La particularité de ce clone de Mycobacterium tuberculosis, c'est qu'il est extrêmement contagieux et comme il est de plus en plus répandu et de plus en plus traité, en règle générale, il est associé à une résistance aux antituberculeux relativement importante. Ça, ce sont les cartes que j'ai tirées du site de l'OMS hier. C'est pour ça que le topo est relativement updaté. C'est l'incidence estimée donc en 2012 des tuberculoses résistantes. Donc, on voit à peu près où sont les pays effectivement avec les tuberculoses résistantes. Alors, il y a beaucoup l'Afrique et le sud de l'Afrique, et en particulier tout le continent asiatique. Ça, ce sont les pays donc à la date d'hier, où on a des tuberculoses XDR. Qu'est-ce que c'est XDR? C'est des tuberculoses pour lesquelles on a extrêmement peu de capacités thérapeutiques, puisqu'elles sont en règle générale résistantes aux traitements de première et de deuxième ligne antituberculeux. Donc les capacités thérapeutiques deviennent extrêmement limitées. Et donc vous voyez que ça, ce sont les pays où il y en a, donc elle est distribuée, cette tuberculose XDR, à peu près partout dans le monde maintenant. Et les pays où la prévalence est la plus importante, c'est effectivement les pays d'Europe de l'Est. Donc on sait que dans ces pays, il y a une prévalence extrêmement importante de cette tuberculose résistante. Et donc ces tuberculoses résistantes, bien entendu, eh bien, elles sont arrivées en France avec une progression qui n'est pas négligeable. Alors pour l'instant, on n'est pas à des centaines et des centaines de cas, mais enfin, on est à, quand on cumule les cas, on est à plus de 400 cas depuis le début. Et on a par an, avec notamment l'année dernière, un nombre de cas qui approche de la centaine, donc de tuberculose multirésistante. Donc là, on est en train d'assister à un phénomène qui est un phénomène très compliqué, puisque la tuberculose est une maladie qui est une maladie progressive, pas très aiguë, difficilement diagnosticable, et donc pour le peu, est probablement très sous-estimée. Voilà actuellement le niveau de résistance en France chez les nouveaux cas, c'est environ 10%. De souches qui sont résistantes, c'est relativement important. Et chez les malades déjà traités, on est à 20% de résistance sur Mycobacterium tuberculosis. Voilà, donc ce que je voulais vous dire par là, c'est que les maladies émergentes, c'est sûr que l'environnement a une forte pression sur l'émergence d'un certain nombre de maladies, qu'il faut continuer à les suivre de façon à ne pas se laisser dépasser et essayer de prévenir ces maladies émergentes. Mais il y a réellement parmi les maladies qui ont déjà émergé un certain nombre qui effectivement ne sont des problèmes de santé publique et pour lesquels il convient de s'attaquer très rapidement.